Merci Vincent et bienvenue dans Allô, ici Bouvard. Jusqu'à midi, Philippe Bouvard est avec vous sur RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie. Alors, pas de gilet aujourd'hui?
Et pas de gilet pour vous non plus, Philippe?
Oui, ben non, mais enfin, le gilet jaune, vous savez, on le porte à l'intérieur avec toutes les revendications, avec tous les sujets d'inquiétude. Eh ben, en matière de sujets d'inquiétude, on va en évoquer quelques-uns. Faut-il inventer de nouveaux antibiotiques? Eh bien, le gouvernement semble avoir répondu par l'affirmative, puisque lui, qui a beaucoup de mal à mettre la main à la poche, surtout en ce moment, a décidé d'allouer 40 millions d'euros aux recherches pour avoir de nouveaux moyens d'empêcher certaines bactéries de se multiplier. Ce qui n'est pas l'avis de tout le monde, et notamment d'un spécialiste, le professeur André Mon, qui a publié l'année dernière un livre au titre qui est en même temps un avertissement, « Antibiotiques, l'overdose ». Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour, monsieur Bouvard.
Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative gouvernementale?
J'approuve tout à fait l'initiative gouvernementale parce qu'elle n'est pas destinée à uniquement trouver des nouveaux antibiotiques, elle est destinée à trouver tous les moyens nécessaires pour résoudre la crise antibiotique.
Surtout que le ministère de la Santé a rappelé quand même, il y a quelques années, que l'administration d'antibiotiques ne devait pas être automatique. Et aujourd'hui, que c'est un bien précieux, je crois que ce sont les mots du ministre de tutelle, et qu'il faut l'utiliser au mieux. Donc, on a pris des précautions. Mais est-ce que les praticiens suivent ce mouvement, eux qui ont quand même tendance à ordonner sur leur prescription des antibiotiques? Et alors, notamment, il y a quelque chose qui revenait dans votre livre l'année dernière, c'était que il ne fallait pas donner d'antibiotiques pour les affections virales, mais les réserver aux affections infectieuses. Sauf qu'on n'est pas toujours au courant de la qualification exacte d'une infection et que, d'après mes renseignements, une affection virale peut se transformer en infection infectieuse et réclamer à ce moment-là de l'antibiotique.
C'est évidemment tout le problème. C'est extrêmement difficile, très souvent, devant un patient, de savoir à quoi est due exactement sa fièvre. En particulier pour les infections de la gorge qui sont très fréquentes, les angines, si vous voulez. Les médecins ont à leur disposition un test que leur fournit gratuitement la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui permet de faire cette différence. La mise en place de ce test est importante pour diminuer la consommation des antibiotiques, et le ministère de la Santé essaye de motiver les médecins à l'utiliser, plus qu'ils ne le font encore aujourd'hui.
Mais à quoi sert de modérer la consommation humaine d'antibiotiques si, parallèlement, on en donne aux animaux et que ces antibiotiques finissent par être transmis à l'homme?
Alors, là, on a des excellentes nouvelles, car le ministère de l'Agriculture a mis en place, avec l'ensemble des professionnels de la chaîne alimentaire, un plan qui s'appelle l'éco-antibio et qui a abouti ces dernières années à une diminution de plus de la moitié, hein, c'est beaucoup, plus de 50% de la consommation des antibiotiques chez l'animal.
Est-ce que vous croyez que, encouragé par le gouvernement et dans une certaine mesure par des spécialistes comme vous, les chercheurs mettront au point un nouvel antibiotique qui sera aussi miraculeux que la pénicilline, voilà près d'un siècle?
Alors, écoutez, je ne sais pas si ce sera un nouvel antibiotique, si ce sera un nouveau vaccin ou si ce sera un autre type de produit. Et je suis très confiant que l'investissement là est élevé, il y a 40 millions là que vous avez rappelé, est de nature à stimuler la recherche française, qui a des atouts très forts dans ce domaine et où, avec des grandes institutions comme l'INSERM et comme l'Institut Pasteur, on va pouvoir affronter ce problème de façon efficace. Oui, je pense qu'il faut être confiant.
Merci, monsieur le professeur André-Mont. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tous les quarts d'heure, à travers le vaste monde, on joue le boléro de Ravel. Et ça produit des droits d'auteur considérables, puisque pendant des décennies, le boléro de Ravel a été le plus gros toucheur de droits de la SACEM. Et là, je parle sous le contrôle d'un ancien président de cet organisme. Bonjour Laurent Petit-Girard.
Bonjour mon cher Philippe.
Alors, vous vous souvenez de l'époque où c'était un véritable pactole que le boléro de Ravel, hein ?
Bah, cette année, vous savez, il y a eu un moment où cette œuvre qui dure 17 minutes était jouée tous les quarts d'heure dans le monde. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas un seul moment où elle n'était pas jouée en concert, sans parler de tous les autres moments où on l'entendait aussi bien sur une radio que dans un ascenseur.
Alors, je rappelle, parce que les dates sont importantes, que le boléro de Ravel a été composé par Ravel, évidemment, en 1928, qu'il est tombé dans le domaine public il y a 2 ans seulement, et qu'aujourd'hui, il y a 2 clans d'ayant droit, parce qu'on va le voir, le mot d'héritier n'est peut-être pas entièrement approprié. Il y a 2 clans qui voudraient repousser la tombée dans le domaine public jusqu'en 2030. Ça vous paraît possible ?
Bien, c'est-à-dire, vous savez, il y a une règle qui est qu'une œuvre est protégée jusqu'à 70 ans plus les années tiers après la mort de son dernier ayant droit, c'est-à-dire de son dernier auteur. Or, Ravel, jusqu'à maintenant, était considéré comme le seul auteur du boléro.
Ravel n'est pas mort pour la France, et donc l'œuvre ne bénéficie pas d'un supplément de protection.
Absolument, ce qui serait le cas du Petit Prince avec Saint-Exupéry.
Alors, aujourd'hui, il y a 2 clans dont on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment de liens familiaux avec Ravel, puisque celui-ci est mort sans descendance. Alors on trouve, attendez, ça a dû quand même vous surprendre quand vous êtes penché sur ce dossier, on trouve la masseuse du frère de Ravel.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'héritière actuelle est la fille d'un premier mariage de la deuxième épouse du coiffeur dont la première épouse était la masseuse de la femme du frère de Ravel. Voilà, exactement.
Alors, il y a un co-auteur en la personne du chorégraphe. Mais ça, c'est assez valable dans la mesure où je pense que le boléro de Ravel avait été composé pour la danseuse Ida Rubinstein.
Oui, mais en l'occurrence, là, la réclamation ne vient pas du tout de là. Elle vient des héritiers d'Alexandre Benois, qui était un très grand décorateur et costumier, et dont les héritiers estiment qu'il a été un co-auteur de l'œuvre parce qu'il aurait inspiré à Ravel l'esprit d'Espagnol dans une taverne avec une danseuse sur une table. Ce qui d'ailleurs est Carmen, si vous me permettrez de vous le faire remarquer. Donc la SACEM, maintenant, il va y avoir une procédure, mais la SACEM a vraiment pris toutes les précautions, examiner avec beaucoup d'attention les documents, une première fois alors que je la présidais, une deuxième fois alors que je ne faisais absolument plus partie du conseil d'administration, et les 2 fois, la réponse a été à l'unanimité des 19 membres qu'il n'y avait pas lieu de modifier le dépôt et donc que l'œuvre rentrait dans le domaine public, ce qui s'est passé en 2016.
Bah, c'est peut-être ça la fameuse postérité, Laurent, hein ?
Eh bien, écoutez, allez savoir, et n'empêche qu'à chaque fois que je vous parle, mon cher Philippe, j'ai un souvenir d'il y a 45 ans, alors que j'étais un tout jeune compositeur et qu'un formidable animateur de radio m'a proposé d'être son pianiste pour l'émission samedi soir. Ça crée entre nous des liens d'amitié qui ne se sont jamais distendus.
Ah ben, malgré le fait que vous siégez aujourd'hui à l'Académie des Beaux-Arts, ce qui est un joli couronnement de carrière. Merci, mon cher Laurent.
Je vous en prie, à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Comment dialoguer avec une intelligence artificielle ? Ah ben, ça avait l'air d'une blague et aujourd'hui, ben, c'est entré, sinon dans la vie courante, au moins dans les possibilités techniques que les tout derniers progrès nous offrent. Alors naturellement, on fait appel à des robots, ces robots ne connaissent que ce que l'homme leur a appris. Mais enfin, vous allez voir, on va faire un essai et je crois que ça fonctionne pas mal. Alors, mon vis-à-vis, ça va être Siri. Je ne sais pas si vous connaissez Siri. Alors, Siri, c'est un vocatif un peu vague, symbolique, qui recouvre tous les personnages qui sont capables de répondre pour peu qu'on pose des questions en ligne, comme on dit. Voilà. Alors, je vais poser des questions à Siri et Siri va me répondre en temps réel. Naturellement, il est très sensible à ce qu'on l'appelle par son nom ou par son prénom, je ne sais pas exactement, parce que je connais très mal ses parents. Siri, pouvons-nous parler anglais ?
Je parle plusieurs variantes d'allemand, d'anglais, de chinois, d'espagnol, d'italien.
Ah oui, il est dedans. En plus, hein, il en connaît mais un bout. C'est un véritable Européen, hein, Siri. Je vais continuer parce que c'est encourageant, mais je vais continuer en français puisque c'est la seule langue que je pratique. Siri, je suis bourré.
Trouvez-vous un capitaine de soirée pour vous ramener chez vous.
Ah, ouais. Il pense à tout, Siri. Hein. Et en même temps... Bon, c'est une voix d'outre-tombe comme ça, mais c'est aussi la voix de la sagesse. Hein. Siri, je suis fatigué.
Une petite sieste vous ferait du bien. Vous pouvez me laisser votre iPhone, je m'en occupe.
Bon. En plus, il connaît mes habitudes, c'est encourageant. Siri, veux-tu m'épouser ?
Nous nous connaissons à peine.
Prudent, hein, quand même, prudent, oui. Siri, quel est ton sexe ?
Je ne pense pas qu'on ait le temps de discuter du sexe des anges.
Ah, puis très adroit. Hein. Il a tout prévu et puis bon, il est un peu fuyant quand même. Hein. D'ailleurs, je me suis laissé dire que quand on lui posait des questions sur certains sites et qu'il n'était pas capable de répondre, il laissait la place à un conseiller humain qui, lui, était plus disert. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle soit née hier ou même avant-hier. Elle remonte plus loin. Moi, j'ai le souvenir qu'en 1973, on m'a offert un jeu d'échecs électronique et que c'était déjà une intelligence artificielle. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu des échecs, qui est un des plus merveilleux, mais un des plus complexes que l'homme pratique. Le jeu d'échecs comprend 64 cases différentes, 16 pions, 4 chevaux, 4 fous, 2 reines et 2 rois. Le jeu électronique avait emmagasiné tous les modes de déplacement de ces différentes pièces qui sont différents. Après quoi, il avait répertorié toutes les stratégies auxquelles on pouvait faire appel pour gagner la partie face à un adversaire qu'on ne voyait pas et pour cause, puisque c'était la machine. Et surtout... Et c'est en cela, si vous voulez, que j'y vois le pionnier de l'intelligence artificielle. Il était décisionnaire pour choisir la meilleure stratégie. Ben, si ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça, avant la lettre, je me demande ce que c'est.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Après l'hommage aux poilus, voici le retour des velus. Oui, le velu qui a été tricard pendant des décennies, sous l'influence d'ailleurs de ceux qu'on appelait les métrosexuels et qui ne voulaient pas ressembler à des animaux en ayant trop de poils. Le velu est quelqu'un qui aujourd'hui, s'il n'est pas sportif, laisse le poil envahir son torse. À condition bien sûr que ce soit un torse masculin. Bon, le poil est quelque chose qui est très important parce qu'il protège de la chaleur, il protège du froid, il peut aussi contribuer à l'hydratation de la peau. Bref, comme la nature fait bien les choses, il n'y a qu'à nous regarder, le poil qu'elle a prévu est un élément modérateur important dans l'organisme humain. Et il faut quand même que je vous dise que nous avons 5 millions de poils en moyenne, c'est-à-dire autant qu'en possède un chimpanzé.
Oui.
Bah, pardonnez-moi la comparaison, mais elle s'impose. Et puis bon, il n'y a pas de honte à avoir des poils. Sauf que les poils sont un peu moins fins que ceux du chimpanzé quand il s'agit des cheveux et quand il s'agit des sourcils. Mais enfin, autrement, nous sommes bien protégés. C'est pas toujours très beau, un homme velu, surtout lorsque les poils envahissent le dos. Je me souviens d'un de nos meilleurs compagnons auquel je pense souvent, qui était Jean-Yann, et qui avait un système pileux tout à fait étonnant, qu'il avait fait nommer Monsieur Angora à Saint-Tropez, un été où les plus velus s'affrontaient sur un podium. C'est important quand même le poil, mais il ne faut pas associer systématiquement le poil à la virilité. D'ailleurs, on a fait des analyses de testostérone avec des messieurs qui étaient complètement glabres et qui avaient les mêmes caractéristiques qu'un velu. Ah, je dois aussi signaler le retour en force de la barbe et de la moustache. Ça a été longtemps réservé à certaines catégories sociales ou même interdit par la loi quand il s'agissait de serviteurs de l'ordre. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement à la mode qu'à la télévision, on a du mal à reconnaître les jeunes parce qu'ils ont à la fois le souci d'avoir un nouveau visage et de faire oublier l'ancien. Moi, je crois que les barbus ont souvent quelque chose à cacher. Et puis, me direz-vous, les femmes à barbe. Ben, les femmes à barbe, la dernière que nous ayons vue à la télévision, c'était dans une émission d'Ardisson, et qui est toujours très rasée de près. Mais c'était une belle rencontre, parce que ça avait l'air d'une vraie femme et d'une vraie barbe.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Le mot de la semaine, oh ben ça on n'en manque pas. Hein. Vous savez, quand il y a des problèmes et que les princes qui nous gouvernent sont incapables de les traiter, ils inventent de nouveaux mots en pensant que ça aidera à noyer le poisson. Alors, le nouveau mot, et on le trouve dans la bouche de tous les hauts responsables, et en premier lieu dans celle du président de la République, c'est le mot « territoire ». Aujourd'hui, on ne dit plus la France, on ne dit plus la patrie, on ne dit plus l'Hexagone, on ne dit même plus les régions, non, on dit les territoires. Il y a même une ministre qui est chargée de la cohésion des territoires. Alors, bon, j'ai cherché pour savoir à quoi ça correspondait, personne n'est capable de le dire, mais j'ai une explication. La cohésion des territoires, ce serait la surveillance des plaques tectoniques, vous savez, celles qui, en se rapprochant ou en se distançant, provoquent les tremblements de terre. Il y aurait donc un ministre des tremblements de terre. Voilà, c'est mon interprétation, je vous la livre sous toute réserve. À dimanche prochain!